Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis, 26 juin 2018, avec vous, avec plaisir. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Vous allez bien?
Je vais fort bien, fort bien.
Oui, avez-vous fêté, vous, la Saint-Jean?
Non, plutôt que de fêter une fois par année, j'aime mieux fêter également à travers toute l'année.
Ah oui? Et de quelle façon vous fêtez ça?
Oh, de toutes les façons possibles. Dans un monde imaginaire, donc on trouve des façons originales de fêter. Non, ça a été très
assez
calme.
Tranquille?
Oui, les feux d'artifice m'ont réveillé pour vous dire à quelle heure j'étais déjà couché.
D'accord, alors c'était pas le gros party. Ben, mon Jean-Sébastien, j'ai perdu un peu ma prononciation. Il va falloir que je fasse mes exercices de diction pendant que vous faites la chronique.
Week-end de trois jours a été difficile. Oh là là.
Ben, pas tant que ça quand même, parce qu'il n'a pas fait si beau. Mais moi, j'ai vu trois feux d'artifice en même temps, ou presque. J'étais en face du lac des Deux-Montagnes. Il y en avait un à gauche, un à droite et un dans le milieu. Et c'était impressionnant. Je ne savais plus où donner de la tête.
J'en doute pas. Alors, 26 juin, nous sommes la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, qui sont, faut-il le rappeler, des fléaux qui touchent plusieurs sociétés à travers le globe. Également, Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. 26 juin dans l'histoire, 1614, la Compagnie de la Virginie crée la première loterie en Amérique. Je n'ai malheureusement pas le prix qui était donné. Était-ce un montant en argent? Était-ce une terre? Était-ce la liberté de quelqu'un? Qu'est-ce que c'était? Je n'ai pas la réponse. Je suis très curieux. Maintenant, 1614, c'est une autre époque tout de même.
Oui, un lot, j'imagine. En tout cas, il faudrait faire une recherche.
1759, début du siège de Québec, qui durera du 26 juin, donc jusqu'au 18 septembre 1857, près de Québec, l'incendie du bateau à vapeur, le Montréal, fait 253 morts. 1858, le traité de Tientsin, et je vais l'épeler pour expliquer pourquoi je trébuche là-dessus. Donc, Tien-Tsin, donc Tientsin. C'est donc entre Londres et la Chine, légalise le commerce de l'opium. Autre temps, autre mœurs. 1945, signature de la Charte des Nations Unies. 1959, la reine Elisabeth II, le président Dwight Eisenhower et le premier ministre John Diefenbaker inaugurent la voie maritime du Saint-Laurent lors d'une cérémonie à l'écluse de Saint-Lambert. 26 juin 1970, au Canada, l'âge pour voter aux scrutins fédéraux est ramené de 21 à 18 ans. 1974, à Troy, en Ohio, aux États-Unis, vente du tout premier article avec code à barre et lecteur optique, un paquet de gomme à mâcher. C'était la première chose qui a été scannée, qu'on peut dire ainsi. 1977, Elvis Presley donne son dernier spectacle à Indianapolis. 1997, 26 juin, c'était presque hier, Bloomsbury Publishing publie un livre au Royaume-Uni. À Londres, le premier volet des aventures d'Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Grand succès, même pas besoin d'en parler. En 2007, Pauline Marois devient chef du Parti québécois. 2010, toujours un 26 juin, c'est passé quand même pas mal de choses, 26 juin dans l'histoire. En 2010, donc, d'importantes manifestations ont lieu à Toronto en marge des sommets du G8 et du G20. Les policiers arrêtent plus de 900 personnes. En 2015, la Cour suprême des États-Unis proclame le droit pour les homosexuels de se marier. Toujours en 2015, en France, Yacine Sali décapite son employeur et provoque une explosion dans une usine de produits chimiques. Et encore en 2015, 38 personnes sont assassinées et 39 sont blessées dans la ville touristique de Sousse, en Tunisie, par un homme armé qui a ouvert le feu sur les vacanciers. Et on se laisse également sur un événement en lien avec des attentats. Naissance le 26 juin 1993 de la chanteuse américaine Ariana Grande, qui a défrayé la manchette notamment en mai 2017 lorsqu'il y a eu un attentat à son spectacle à Manchester.
Et oui, c'était presque une chronique nécrologique.
Presque.
Merci Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
À la une de la presse, coupable. Au terme de 16 jours de délibération, le jury a déclaré hier l'entrepreneur Tony Accurso coupable des 5 chefs d'accusation de complot, de fraude, de corruption et d'abus de confiance qui pesaient contre lui. Yves Boisvert, une chronique à ce sujet, La chute de l'empereur. Programme d'échange étudiant écarté après avoir déclaré un épisode dépressif. Paul Gérin-Lajoie, 1920-2018, le père de l'éducation moderne au Québec, n'est plus. Et une exclusivité sport, Sky Brown, l'enfant prodige âgé de 9 ans, la plus jeune planchiste professionnelle du monde, s'amène à Montréal. Un texte de Louis-Samuel Perron, le juré numéro 3 se lève, le visage grave, tous les regards sont tournés vers lui. « Coupable », répète-t-il à 5 reprises d'une voix solennelle. Tony Accurso reste imperturbable. Le dirigeant déchu d'un empire québécois de la construction pourrait maintenant se retrouver derrière les barreaux pour avoir pris part pendant 15 ans au système de collusion des contrats publics à la ville de Laval. La passion de l'éducation. Paul Gérin-Lajoie, un des artisans de la Révolution tranquille et père de l'éducation moderne au Québec, est mort hier à l'âge de 98 ans. Cet avocat de renom faisait partie de l'équipe libérale qui a pris le pouvoir en 1960. Il a été l'un des hommes forts des deux gouvernements de Jean Lesage, d'abord comme ministre de la Jeunesse et ensuite comme ministre de l'Éducation. Il a également été vice-premier ministre. M. Gérin-Lajoie avait été éprouvé plus tôt cette année par la mort de sa femme, André Gérin-Lajoie, avec qui il partageait sa vie depuis 80 ans. Ce grand politicien, reconnu et récompensé au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, est l'une des figures marquantes du Québec contemporain, par ses réalisations et par sa passion pour le changement. S'il a d'abord été ministre de la Jeunesse, une fonction en apparence peu prestigieuse, c'est que le Québec n'avait pas de ministère de l'Éducation. Sa première grande bataille dans le vent de modernité qui portait ce gouvernement libéral a été la création du ministère de l'Éducation dont il est devenu le premier titulaire, une idée qui suscitait de très vives résistances au Québec de la part du clergé qui contrôlait les établissements d'enseignement et des élites traditionnelles. Paul Gérin-Lajoie est à l'origine de plusieurs des grandes réformes qui caractérisent toujours le système d'éducation québécois, notamment la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à 16 ans, le principe de la gratuité et de l'accessibilité, ainsi que la création des polyvalentes. Il a aussi posé les jalons qui ont mené à la création des cégeps et du réseau de l'Université du Québec. C'était un des grands artisans du renouveau du système scolaire du Québec, affirme André Dufour, historienne de l'éducation. Il a démocratisé l'enseignement, c'est un immense monsieur. Une autre initiative lui permet d'intégrer ses deux passions, l'éducation et l'aide internationale, la Fondation Paul Gérin-Lajoie, dont il a été longtemps le PDG et jusqu'à sa mort le président du Conseil. Cet organisme a pour mission de contribuer à l'éducation de base des enfants, de même qu'à l'alphabétisation et à la formation professionnelle des jeunes dans les pays en développement. Au Canada, la Fondation mène aussi des activités de sensibilisation à la coopération et à la solidarité internationale. Bien des générations de jeunes Québécois qui savent peu de choses sur les artisans de la Révolution tranquille connaissent pourtant Paul Gérin-Lajoie sans le savoir, à travers ses initiales PGL, du nom de la célèbre dictée à laquelle des centaines de milliers d'entre eux ont participé. Il n'y aura plus de transport de pierre indispensable à la construction de l'échangeur Turcot le soir, la nuit et les fins de semaine sur le chemin de la Butte aux Renards à Varennes, et ce, au moins jusqu'à la fin des travaux de construction de l'échangeur prévus à la fin de 2020. Dans une décision rendue jeudi, la Cour d'appel a cassé une décision de première instance qui limitait sévèrement le nombre de camions provenant d'une carrière du groupe CRH Canada et d'une usine d'enrobés bitumineux de la firme Beauval en raison des inconvénients majeurs subis par les résidents de cette route secondaire de la Montérégie. La Cour d'appel n'impose plus de limite au camionnage durant les heures normales d'exploitation des deux entreprises, entre 6 heures et 18 heures les jours de semaine. La circulation des poids lourds sera toutefois interdite sur le chemin de la Butte aux Renards le soir, la nuit et les fins de semaine, à moins de rares exceptions. 3 samedis par année, assortis d'un préavis de 10 jours aux résidents. La commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, a transmis les excuses de son organisation aux familles des femmes autochtones disparues ou assassinées hier et a promis de travailler à améliorer les relations entre le corps de police et les communautés des Premières Nations. Lors de son témoignage à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, la commissaire de la GRC, Brenda Lukey, s'est excusée aux familles pour toute la douleur qu'elles ont ressentie après la mort ou la disparition de leurs proches. Elle s'est aussi dite désolée que la GRC n'ait pas été à la hauteur pendant cette période horrible de leur vie. Brenda Lukey a déclaré que la GRC avait modifié la formation de ses cadets pour y inclure plus de matières sur les Autochtones. Triste nouvelle, les secouristes thaïlandais croient que les 12 garçons membres d'une équipe de soccer et leur entraîneur qui sont portés disparus depuis 2 jours dans une grotte inondée sont toujours vivants. Alors là, il y a de l'espoir. Les garçons âgés de 11 à 15 ans seraient entrés dans la grotte Tham Luang Nang Non dans la province de Chiang Rai samedi en fin d'après-midi en compagnie de leur entraîneur de 25 ans. Des plongeurs américains, des Navy SEALs, tentent de rejoindre une grande cavité où les enfants pourraient se trouver. Cette cavité se trouve à environ 4 km de l'entrée, mais son accès est très difficile. La montée du niveau de l'eau a toutefois forcé l'interruption des opérations de recherche hier soir. La grotte se trouve sur le flanc d'une montagne dans l'extrême nord de la Thaïlande, près de la frontière avec la Birmanie. Elle peut être touchée par de graves inondations pendant la saison des pluies entre juin et octobre. Paris, après le coup de filet en France, dans la mouvance de l'ultra-droite, les gardes à vue des 10 personnes soupçonnées de préparer des attaques terroristes contre des musulmans se poursuivaient hier, tandis que des représentants de l'islam exprimaient leurs profondes préoccupations. Cette affaire braque les projecteurs sur l'ultra-droite alors que la menace terroriste est venue ces dernières années essentiellement des réseaux djihadistes responsables d'une vague d'attentats sans précédent depuis 2015. Menée dans la nuit de samedi à dimanche par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure, les arrestations se sont déroulées en Corse, en région parisienne, et en Charente-Maritime, dans l'ouest du pays. Les enquêteurs ont retrouvé des fusils, des pistolets et des grenades artisanales lors de perquisitions, selon des sources proches de l'enquête. La culture de la coca en Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, a atteint un sommet historique en 2017 avec 209 000 hectares, soit une augmentation de 11 % sur une année, a annoncé hier l'administration américaine. Sur la même période, la capacité de production de cocaïne pure a également augmenté de 19 %, passant de 772 à 921 tonnes en 2017. Un autre record historique ajouté dans un communiqué, le Bureau national de contrôle de la drogue. Le message du président Donald Trump à la Colombie est clair. La croissance record de la production de cocaïne doit être inversée, a affirmé le directeur adjoint du Bureau national de contrôle de la drogue, Jim Carroll. Nous continuerons à travailler avec les autorités pour réduire la quantité de cocaïne destinée aux États-Unis, a-t-il souligné, alors que le pays est un allié traditionnel de Bogota, et le principal marché de la drogue colombienne.
jeune pour moi. Et moi, je suis trop grand pour toi. T'as éteint ta cigarette, sûrement que moi. Jusqu'à Val-Mont-d'Oise, je cherche ton ombre, mais tout ce que je trouve, c'est moi. Et ma gueule de bois. Trop jeune pour moi, et moi, je suis trop grand pour toi.
Nouveauté du chanteur Olivier Couture, c'était la pièce Avant de crever.
Paul Gérin-Lajoie, qui a été le tout premier ministre de l'Éducation du Québec de 1964 à 1966, le Québec perd un grand bâtisseur. Paul Gérin-Lajoie a été le principal artisan de la réforme du système d'éducation pendant la Révolution tranquille, 1920-2018. Tourné à Curceau, reconnu coupable, l'ex-entrepreneur en construction était accusé de fraude, de complot, d'abus de confiance, de corruption et de collusion. Jazz, des nouvelles de John Coltrane, un album inédit enregistré en 1963, fait surface. L'album s'intitule Both Directions at Once. Un mandat de grève de 6 jours pour les employés de la SAQ. Le semi-dictateur, une chronique de François Brousseau sur Erdogan. Sur la route, le REM ou le REM pourrait être 9 fois plus polluant que prévu. Mission de paix, les équipages d'hélicoptères allemands qui passeront le relais au casque bleu canadien au Mali affirment qu'ils ont fait face à des retards dans l'approbation d'évacuations médicales critiques en raison du contrôle des coûts par des officiels de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, Certains de ces retards ont duré quelques heures, ont-ils indiqué, des moments qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour des casques bleus blessés dans l'environnement aride et hostile du Mali. Un deuxième contingent de soldats canadiens atterrit sur une piste poussiéreuse et brûlée par le soleil lundi pour se préparer à l'arrivée le mois prochain de 8 hélicoptères que le Canada a promis pour la mission onusienne au Mali dans la prochaine année. Tant l'Allemagne que la Belgique mettront fin officiellement à leur mission d'évacuation médicale samedi prochain et les NH-90 quitteront le Mali pour être remplacés par les appareils canadiens. Les Allemands et les Belges étaient déployés au Mali pour apporter leur soutien après des attaques. Au cours des 18 derniers mois, ils ont escorté 43 casques bleus blessés sur les champs de bataille dans 16 vols. Les employés syndiqués de la Société des alcools du Québec, SAQ, se sont finalement prononcés à 91 % pour un mandat de grève de 6 jours qui sera exercé au moment opportun en fonction du déroulement des négociations. Après 16 mois de pourparlers, les employés espèrent voir la situation se débloquer et enfin renouveler leur convention collective issue depuis le 31 mars 2017. Au cœur des discussions, l'amélioration de la conciliation travail-famille, ainsi que de meilleures conditions de travail pour les employés à temps partiel et occasionnel, qui représentent près de 70 % de l'ensemble des membres, d'après le syndicat. Ces derniers réclament notamment plus de stabilité et des revenus décents. De son côté, la partie patronale souhaiterait davantage de souplesse et de flexibilité de la part de ses employés permanents afin de rééquilibrer les horaires de travail. À l'heure actuelle, 80 % des employés permanents travaillent du lundi au vendredi. Sous la menace d'une grève, la direction de la SAQ se prépare déjà à minimiser l'impact sur les clients en mettant en place un plan pour maintenir l'ouverture d'un certain nombre de succursales et ainsi rendre les produits toujours accessibles au public, poursuit M. Gaudreau. Mais pour l'heure, il se veut rassurant et garde bon espoir qu'une nouvelle entente soit conclue d'ici le mercredi 27 juin. Le légendaire constructeur de motos Harley-Davidson a annoncé lundi qu'il déplacerait à l'étranger la production des motos destinées au marché européen afin d'échapper aux tarifs douaniers de l'Union européenne. La compagnie a expliqué que les droits européens imposés aux motos exportées depuis les États-Unis sont passés de 6 % à 31 %, ce qui ajouterait environ 2 200 US au coût d'une moto exportée des États-Unis vers l'Union européenne. L'Union européenne a imposé vendredi des tarifs douaniers sur des produits américains d'une valeur totale de 3,4 milliards de dollars américains en riposte à la décision du gouvernement Trump d'appliquer des droits à l'aluminium et à l'acier européen. Le président américain Donald Trump s'est porté lundi à la défense de sa porte-parole Sarah Huckabee Sanders, qui a affirmé sur Twitter avoir été expulsée d'un restaurant de la Virginie vendredi soir en raison de son emploi. M. Trump s'en est pris à la propreté du restaurant de Red Hen en déclarant sur Twitter que si c'est sale à l'extérieur, alors c'est sale à l'intérieur. Les images du restaurant ne montrent toutefois aucun signe de malpropreté ou d'entretien déficient. Mme Sanders affirme que la propriétaire de l'établissement lui a demandé de s'en aller parce qu'elle travaillait pour M. Trump. La copropriétaire Stephanie Wilkinson a expliqué au Washington Post avoir agi de cette manière par respect envers ses employés gays, puisque Mme Sanders a défendu l'intention de M. Trump d'interdire aux transgenres de servir dans l'armée. tels que 2000 étrangers en situation irrégulière au Chili et ayant des antécédents judiciaires ou purgeant une peine de prison seront expulsés d'ici la fin de l'année, a annoncé lundi le gouvernement du président de droite, Sebastián Piñera. Les expulsions ont commencé vendredi dans le cadre d'un plan étatique pour faire face à l'arrivée massive de migrants ces dernières années. Ils sont passés de 400 000 à plus de 1,1 million, dont 300 000 sont soupçonnés d'être en situation irrégulière. La porte-parole du gouvernement, Cecilia Pérez, a assuré que le Chili garde les portes ouvertes à tous les étrangers, mais pas à ceux qui ont commis des délits dans leur pays ou qui veulent en commettre dans le nôtre. Les Vénézuéliens et les Haïtiens sont les communautés ayant le plus augmenté leur flux migratoire vers le Chili ces dernières années. Plusieurs chefs d'État ont félicité M. Erdogan pour sa réélection, notamment le président russe Vladimir Poutine, qui a loué lundi la grande autorité politique de son homologue turc. Dans un contexte de relations tendues avec l'Occident, M. Erdogan a aussi reçu des félicitations de l'OTAN, assorties d'un rappel des valeurs fondamentales de l'Alliance, tandis que la Commission européenne disait espérer qu'Ankara, c'est bien cela, reste engagée avec l'Union européenne. La chef de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, et le commissaire européen à l'élargissement, Johannes Hahn, ont de leur côté estimé que les conditions de la campagne n'avaient pas été équitables. À Washington, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a appelé la Turquie à prendre des mesures afin de renforcer la démocratie, exprimant la première réaction américaine après la réélection, dès le premier tour de M. Erdogan, Recep Tayyip Erdogan. Et sport, Rafael Nadal est de retour au sommet du classement ATP, reprenant le premier rang à Roger Federer après une semaine. Restez avec nous, le quotidien des quotidiens version une demi-heure de plus du lundi au jeudi se poursuit après la pause.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent, couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café. Que j'aime ta couleur café.
C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir, la nuit sera blanche, couleur café, que j'aime ta couleur café.
Couleur café, que j'aime ta couleur café.
L'amour sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café.
Un petit peu de Serge Gainsbourg, réinventé par Annie Poulain ce matin, tiré de son album Soulé à l'autre. C'était la pièce Couleur Café, une reprise de cette pièce de Gainsbourg qui date à l'origine de 1964.
À la une du Journal de Montréal de ce mardi 26 juin 2018, à Curso coupable, corruption, abus de confiance, fraude, complot. La construction de 3 méga-hôpitaux coûte 400 millions de dollars chaque année aux contribuables. La dette en santé explose. Grutier, un syndicat sonne la fin de la grève. Et Paul Gérin-Lajoie, funérailles nationales pour un géant. Éloge de toutes parts pour le père du ministère de l'Éducation, Paul Gérin-Lajoie, un héros de la Révolution tranquille, aura droit à des funérailles nationales, a annoncé le premier ministre Philippe Couillard en réagissant au décès du fondateur du ministère de l'Éducation. Aussitôt arrivé dans la capitale américaine où il participe à une série de rencontres, le premier ministre a tenu à présenter ses condoléances et à souligner la contribution de M. Gérin-Lajoie à la société québécoise. Triste nouvelle pour le Québec. Un grand Québécois, un grand homme de notre histoire, a réagi M. Couillard lors d'une mêlée de presse en confirmant la tenue de funérailles nationales et la mise en berne du drapeau du Québec à l'Assemblée nationale. Les élus ont d'ailleurs été nombreux à lui rendre hommage. Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a souligné le décès d'un bâtisseur d'État. Un humaniste, un modèle, a-t-il écrit sur Twitter. Sur le même réseau, le chef caquiste François Legault a indiqué que M. Gérin-Lajoie demeure pour lui une source d'inspiration. Photo qui fait mal au cœur, un homme a été récemment condamné au criminel pour avoir piégé une moufette et l'avoir laissée agoniser dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal à Montréal, une première au Canada. Gaétan Bouchard a plaidé coupable au début du mois de juin des accusations de cruauté animale à la Cour municipale de Montréal. L'homme était accusé d'avoir piégé un animal de la faune et de l'avoir laissé souffrir. En conséquence, il devra respecter une période de probation d'un an, payer une amende de 500 $ et rembourser 149 $ à la société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal. Trois hôpitaux font sauter la dette. Elle a augmenté de 8 milliards de dollars en 10 ans à cause, entre autres, de la construction de méga-centres à Montréal. Très peu connue, la dette de la santé pèse de plus en plus lourd sur le ministère du même nom. Elle a fait un bond important dans les dernières années pour atteindre plus de 13 milliards de dollars selon le ministère de la Santé. Seulement entre 2008 et 2018, le service de la dette, intérêt, payé par Québec est passé à lui seul de 700 millions à 1,6 milliard de dollars. De l'argent prélevé directement sur le budget annuel du ministère qui ne va pas dans les services directs aux patients, ou pour embaucher plus de personnel. Environ 40 % de cette augmentation est liée à la construction des méga-hôpitaux du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, et l'agrandissement du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, pour lesquels le gouvernement a emprunté pas moins de 5,5 milliards de dollars. Pour les spécialistes interrogés par notre bureau d'enquête, il ne s'agit pas nécessairement d'une mauvaise dette, puisqu'elle est liée à des actifs immobiliers. Ce n'est pas comme mettre un voyage à Cancun sur la carte de crédit. Ça serait inquiétant. Ça ressemble plus à un paiement sur l'hypothèque d'une maison, illustre Marie-Soleil Tremblay, professeure à l'École nationale d'administration publique. Le problème vient souvent des dépassements de coûts liés à ces mégaprojets. C'est là le gros risque. C'est très rare qu'on réussisse à respecter le budget, mentionne-t-elle. Patiente forcée de crier à l'aide. Une infirmière d'un CHSLD de Sherbrooke a reconnu avoir privé une patiente âgée et malade de sa cloche d'appel pendant plusieurs heures, l'obligeant à crier à l'aide au milieu de la nuit pour avoir des soins la veille de son décès. L'infirmière Darkise Hood, qui travaillait de nuit au centre d'hébergement de soins de longue durée East Angus, a plaidé coupable d'avoir fait preuve de violence physique en posant des gestes brusques envers une cliente et d'avoir compromis sa sécurité. En la privant de l'accès à une cloche d'appel en juin 2016, la semaine dernière, devant le Conseil de discipline de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. L'infirmière s'expose à une radiation d'un an, mais Mme Hood a déjà pris sa retraite il y a 2 ans lorsque son employeur lui a fait part de son intention de la suspendre pour faire enquête sur ses agissements de cette nuit-là. L'avocate de la syndic adjointe de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Marie-Ève Giguère, a tout de même plaidé pour une sanction au cas où l'infirmière voudrait retourner à la profession, jugeant qu'un risque de récidive est présent. À aucun moment, elle n'a exprimé de remords ou de regrets, a-t-elle dit, déplorant son manque d'introspection. Darkise Hood a quant à elle expliqué devant le conseil de discipline qu'elle était fatiguée et débordée pendant la nuit en question et que la patiente était, selon elle, en délirium. Elle a admis avoir retiré la cloche d'appel pendant près de 4 heures, mais a assuré qu'elle faisait des visites aux 15 minutes à sa chambre. Le conseil de discipline de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec rendra sa décision sur la sanction imposée à Darkise Hood d'ici 90 jours. Les résidents de plusieurs localités en Chaudière-Appalaches ont eu toute une surprise hier lorsque de la grêle s'est mise à tomber. Plusieurs internautes ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos de cette surprenante chute de grêlon survenue un lendemain de fête nationale du Québec. Cindy Plamondon de Lac Etchemin soutient que la tempête de grêle a débuté vers 13 heures. Selon la résidente, l'averse de grêlon a duré une trentaine de minutes avec une petite accalmie. D'après Environnement Canada, les chutes de grêlons se produisent surtout l'été, lorsque l'activité orageuse atteint son point culminant. Un homme de 35 ans a perdu la vie hier en se noyant au parc national de la Yamaska en Estrie. Selon la Sûreté du Québec, l'homme se trouvait en compagnie d'un groupe dans le parc lorsqu'il a décidé d'aller se baigner dans le réservoir Chouanière avec 2 autres personnes aux environs de 18 heures. À un moment, ces 2 personnes ont réalisé qu'ils avaient perdu l'homme sous l'eau. La victime a été repêchée et des manœuvres de réanimation ont été amorcées. Malheureusement, le décès de l'homme a finalement été constaté à l'hôpital. Les policiers sollicitent l'aide du public afin de retrouver 2 adolescentes, Annabelle Laprise de Varennes, portée disparue depuis vendredi dernier, ainsi que Lauriane Robichaud, 17 ans, également disparue depuis vendredi à Laval. Annabelle, âgée de 14 ans, a quitté la demeure familiale vers 15h30 pour se diriger vers la station de métro Longueuil, Université de Sherbrooke, en autobus. La régie de police Richelieu-Saint-Laurent croit que l'adolescente en fugue pourrait se trouver sur l'île de Montréal. Elle mesure 1 m 68, 5 pieds, 6 pouces, pèse 132 livres et a les yeux bruns et les cheveux bruns longs. Quant à Lauriane, l'adolescente était partie de son domicile pour rejoindre une personne de son entourage, a mentionné de son côté la police de Laval. Elle est de race blanche et parle français. Ayant les cheveux blonds et les yeux bruns, elle mesure 1 m 67, 5 pieds 6 pouces et pèse environ 140 livres. Les bouchers charcutiers ont demandé la protection de la police française au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb face aux attaques et à la violence qu'ils subissent de la part de groupuscules véganes, anti-viande et anti-élevage. Les 18 000 artisans bouchers charcutiers de France s'inquiètent des conséquences de la surmédiatisation du mode de vie végan, indique dans une lettre le président de la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur Jean-François Guillard. Se déclarant choqué qu'une partie de la population veuille imposer à l'immense majorité son mode de vie, pour ne pas dire son idéologie.
J'ai bien évalué les options. La fuite n'est pas la solution. Et j'ai bien beau me croiser les doigts. Je crois que t'as tout vu, et ben voilà. Et toute gloriole me déserte, et même l'orgueil vole en miettes. Jupe entordue et cheveux au vent. J'espère que tu trouves ça charmant. La gravité ne m'aime pas beaucoup. Je tombe souvent sans explication. Même pas la séquise des nous. Même pas une pièce à conviction. Mercurochrome et petit pansement. Toujours lors des pires circonstances. Genre au premier rendez-vous et proportionnel à l'assistance. Plus y a de monde, plus j'ai l'air fou. Mes genoux embrassent le parquet. Rien d'une romance de série B. T'as dit ça va, t'as rien de cassé. Et je suis tombée amoureuse. Petite mamzelle de chemin, à petits pas tout près des tiens. Et c'est même pas grave si je perds pied. De toute façon, tu me trouves jolie, même échevelée. Thank you.
issu de son premier album, Ma petite mamzelle de chemin. On vient d'entendre Ingrid Saint-Pierre et la pièce Mercurochrome et Petit pansement.
Merci Jean-Sébastien, et c'est vraiment un lien qui s'est pas fait, s'est pas arrangé avec le gars des vues. Bambin mordu à Gatineau, le chien sera évalué cette semaine et je vois un petit garçon avec des pansements. La SPCA de l'Outaouais procédera cette semaine à l'évaluation du chien qui a attaqué un garçon de 2 ans vendredi dernier à Gatineau. C'est dans le droit Charles-Antoine Gagnon. Le chien de type pitbull est présentement en quarantaine à la SPCA. Le personnel qui côtoie l'animal est réduit et expérimenté. Nous allons évaluer la dangerosité de l'animal. C'est fait généralement par une évaluation comportementale qui est souvent accompagnée par un examen de la santé effectué par un vétérinaire, a expliqué la directrice générale de la SPCA de l'Outaouais, France Dubois. Les caractéristiques physiques de l'animal, ses caractéristiques psychologiques, les circonstances de l'événement, le comportement de la personne qui a été mordue et les propriétaires du chien feront aussi partie des éléments qui seront scrutés par le personnel. Le processus d'évaluation devrait être assez rapide. Un rapport sera remis aux autorités publiques qui ont pris le dossier en main. Des recommandations seront émises allant des normes de garde de l'animal jusqu'à l'euthanasie. Lorsque nous faisons une évaluation comme ça, le premier critère est d'assurer la sécurité des citoyens. C'est très important pour nous de ne pas remettre dans la communauté un chien qui représente un risque de récidive important, a signalé Mme Dubois. La SPCA préfère pour le moment faire référence à l'animal comme étant un chien de type pitbull, puisqu'elle n'a pas les papiers de l'éleveur qui confirmeraient la race exacte. Le petit Hugo, 2 ans, était assis dans sa poussette manœuvrée par sa mère vendredi soir dernier, dans le secteur Elmer, lorsque le chien est arrivé de nulle part et a attaqué l'enfant, a expliqué le père de la petite victime, Mathieu Giroux. Le malheureux événement s'est produit dans le secteur du parc des paysans, alors que la mère et l'enfant retournaient à la maison. Le chien s'est placé directement devant la poussette et a attaqué mon fils. Il a des blessures au visage. Il a des pointutures à la lèvre supérieure, sur la joue gauche et sur la main gauche. On voit aussi des traces de dents sur le bras, a raconté M. Giroux. L'attaque s'est faite en 2 fois. Ma femme a réussi à retirer le chien une première fois, mais en se débattant, le chien a réussi à se défaire de son emprise et il a sauté une 2e fois dans la poussette. Ma femme a réussi à reprendre le chien. Elle s'est mise sur lui et elle s'est assise sur lui et a appelé à l'aide. Les voisins ont commencé à sortir pour lui prêter assistance, a-t-il continué. Les ambulanciers ont transporté le petit Hugo à l'hôpital pour que ses blessures soient traitées. Il a reçu son congé plus tard en soirée et des antibiotiques lui ont été prescrits. Il va quand même assez bien, malgré les blessures, a indiqué M. Giroux, constatant toutefois que la situation aurait pu être bien pire. Quelques pouces plus haut, c'était l'œil qui y passait, et quelques pouces plus bas, c'était la gorge. Le chien n'était pas attaché, n'avait pas de muselière et n'était visiblement pas dans une cour clôturée. Les règlements municipaux de Gatineau sur les chiens potentiellement dangereux dictent notamment que l'animal doit être maintenu au moyen d'une laisse mesurant au plus de 2 mètres de longueur lorsqu'il est hors de son enclos et que le port de la muselière est obligatoire en tout temps lorsque l'animal est hors de son enclos. La classe de rêve de Madame Chantal, c'est Mylène Moisan dans le soleil. Il y a une couple d'années, Chantal Fortin a hérité d'un modeste local pour sa classe de 3e. Elle se demandait bien comment elle allait faire pour y installer 26 pupitres sans les empiler un par-dessus l'autre. Elle a eu une idée. Elle avait lu quelque part à propos d'un nouveau concept, la classe flexible, où les élèves n'ont plus une place attitrée. Pas de table avec leur nom collé devant. L'idée est plutôt simple, quelques tables, des chaises et des meubles pêle-mêle où les enfants choisissent de s'installer, le matin, dans la chaise berçante, l'après-midi, sur la caisse de lait, ou au bureau du prof. En repensant ma classe, je voulais favoriser le travail collaboratif, de faciliter l'accompagnement des élèves et de créer une ambiance chaleureuse dans un endroit où on a le goût de passer toute une journée. Chantal n'avait évidemment pas de budget pour réaliser son idée. Elle a couru les brocanteurs, les ventes de garage et les marchés aux puces pour dénicher du beau, bon, pas cher. Elle a réussi à trouver ce qu'elle voulait. Des meubles pas trop imposants et 24 places pour s'asseoir. Un parfait bric-à-brac. Les élèves ont tout de suite craqué pour le concept. Mon grand était dans la première cohorte. Et les élèves, qui étaient en deuxième à la fin de l'année, se croisaient les doigts pour être dans la classe de Mme Chantal, ce qui n'enlève rien aux qualités des autres profs. Au printemps l'an dernier, Richard Vallée est venu à l'école Saint-Fidèle au cours de sa tournée annuelle. Richard est le directeur général adjoint aux affaires administratives de la commission scolaire de la capitale. C'est lui qui tient en quelque sorte les cordons de la bourse. Il évalue les besoins, octroie les budgets en conséquence. La directrice de l'école lui a proposé de visiter la classe flexible de Mme Chantal. Il a demandé aux élèves ce qu'ils aimaient de la classe et ce qu'ils n'aimaient pas, raconte l'enseignante. Le seul point qui est ressorti dans ce qu'ils n'aimaient pas, c'est que ce n'était pas toujours solide, ça brisait. Ça aurait pu en rester là, mais non. Richard a tout de suite pensé à l'entreprise de formation Dimension, à qui il avait déjà confié des projets. C'est un organisme social qui vise à donner un métier à des jeunes décrocheurs en les initiant à la menuiserie et à la soudure. Il a demandé à Mme Chantal de mettre sur papier sa classe de rêve. Elle ne s'est pas fait prier. « Je suis partie avec le concept « Et si la beauté rendait heureux », le titre d'un ouvrage de Pierre Thibault et de François Cardinal. J'ai cherché à maximiser l'espace, à rendre la classe agréable, épurée pour ceux qui ont des troubles d'attention. J'ai pensé à mes élèves. » Une phrase du bouquin l'a particulièrement inspirée. « L'architecture nous envoie des messages. Tu es un humain qui a une journée à vivre. Vis-la ici, dans un environnement qui te permettra de la savourer pleinement. » Richard a donné le feu vert. J'ai présenté mon projet et il a décidé de le financer. La nouvelle classe a pris forme au cours de l'année. Les jeunes qui ont fait les meubles venaient les installer. Ils étaient tellement fiers d'eux. Certains en ont profité pour donner un conseil aux élèves de troisième. Restez à l'école, c'est important. Ils sont bien placés pour le savoir. Les meubles sont faits en bois solide, du merisier russe. La main-d'œuvre n'a rien coûté. Tout le budget a été alloué aux matériaux. On a choisi un bois de qualité pour que ça dure, précise Richard. C'est bien beau du plastique, mais après 10 ans, c'est fini, il faut tout remplacer. Il faut penser à long terme. Que ça fait du bien entendre le mot « long terme », une espèce en voie de disparition en cette ère de gestion à courte vue. Richard a trouvé que le grand mur face aux fenêtres avait l'air chenu. Il a proposé d'en faire une fresque en 3D, de confier le projet à Caroline, enseignante à l'École des métiers. Elle s'est attelée à la tâche devant les enfants qui ont parfois joué le rôle de conseillers artistiques. Le lapin, c'est leur idée. Chantal, elle, a fabriqué les coussins. J'ai magasiné les coussins pour les grands bancs, c'était cher. J'ai fait acheter le tissu et je les ai faits avec ma mère. Richard a aussi lancé l'idée de faire une inauguration dans les règles de l'art par un bel après-midi de semaine. Les enfants servaient des verres de mou aux visiteurs, mou, M-O-U, accent circonflexe T. Ils étaient tout contents de montrer leur classe. Des parents sont passés, des grands-parents aussi, comme cet homme qui sirotait son mou dans la chaise berçante. Un élève de la classe, arrivé en novembre de Saint-Martin après le passage de l'ouragan, a remis une gerbe de fleurs à Mme Chantal. Et oui, je l'ai vu de mes yeux vus. La beauté rend heureux. Victime d'un malaise, samedi, Paul Pichet se porte mieux. C'est dans le quotidien Dominique Gobeil et Jonathan Hudon qui racontent l'histoire. L'auteur-compositeur-interprète Paul Pichet a dû quitter la scène en raison d'un malaise samedi soir à la zone portuaire de Chicoutimi, alors que des milliers de personnes étaient en train de chanter avec lui « Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir » et de festoyer pour la fête nationale. Il est finalement revenu une heure plus tard sous une pluie d'applaudissements. « J'ai eu un étourdissement, je pense que vous m'avez fait tourner la tête », a rigolé Paul Pichet une fois de retour, l'air un peu moins en forme. Lundi, l'artiste a publié un message sur sa page Facebook tentant de rassurer ses fans. Des examens passés à l'Institut de cardiologie de Montréal n'ont révélé aucun signe inquiétant. Il était même de retour sur scène dimanche à Saint-Constant. « Tout va bien côté cœur, il est bon et toujours à la bonne place », a écrit Paul Pichet. On croit plutôt que le malaise vient d'un vertige positionnel. J'ai fait un mouvement trop brusque avec ma tête pendant le spectacle et tout s'est mis à tourner. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est la première fois en spectacle. Le chanteur québécois n'a pas manqué de saluer le public présent sur la zone portuaire de Chicoutimi, qui est demeuré fidèle malgré l'attente. J'embrasse et je remercie le public de Chicoutimi qui a patienté une heure avant mon retour sur scène, a-t-il poursuivi. Et juste pour continuer sur Paul Piché, il a écrit « Votre appui m'a fait chaud au cœur et il me tire encore une larme aujourd'hui quand j'y pense ».